Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Crise institutionnelle dans les assemblées provinciales de la RDC. Le gouvernement congolais s'est dit préoccupé. La question s'est invitée au conseil de ministres d'hier à Kinshasa. La vice-ministre de l'Intérieur qui l'a évoqué dit prendre des dispositions pour rétablir l'ordre. Des maisons brûlées et une école vandalisée dans le village Kasombo au Kasaï central, c'est la conséquence d'un vieux conflit foncier, un conflit coutumier qui oppose deux chefs de localité. Les enfants n'y vont plus à l'école et la population s'est réfugiée dans la brousse, s'inquiète le chef de Kasombo. Il demande l'intervention des autorités compétentes. Et puis, Mobutu, une vie, un destin, c'est le thème de l'exposition en cours au Musée national à Kinshasa depuis le 16 octobre. Elle se tient jusqu'au 30 octobre 2025. Pour en parler, nous recevons Nzanga Mobutu, l'un des fils de l'ancien président de la RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais s'est dit préoccupé par la crise institutionnelle dans les assemblées provinciales du pays. Cette question a été abordée au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi à Kinshasa, conseil présidé par le président de la République. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a évoqué le sujet, dit prendre des dispositions pour rétablir l'ordre et la paix dans les institutions provinciales. Je vous propose un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu ici par Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, propos choisi par Grace Amzati.
Au plan politique, la vice-ministre a fait état de la résurgence des crises au sein des institutions des quelques provinces avec risque d'extension dans d'autres. Il s'agit entre autres de provinces de Maïndombe, de Lomami, du Kwango. Dans certains cas, les causes sont essentiellement liées à la gouvernance et au mécanisme des fonctionnements des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire des exécutifs provinciaux. Et dans d'autres cas, les différents rapports de service font état des influences de certains leaders politiques et chef des partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces. De ces faits, le ministère de l'Intérieur envisage de réunir tous les chefs des partis aux fins de les inviter à privilégier la stabilité des institutions provinciales pendant cette période critique où la nation demeure confrontée à une crise sécuritaire dans sa partie orientale.
Justement, parlant de crise institutionnelle, le président et le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami sont déchus de leurs fonctions. C'était au cours de la plénière tenue hier vendredi à Kamina, chef-lieu de la province. Ils sont accusés de détournement des émoluments des députés provinciaux. La plénière s'est tenue en l'absence des deux membres du bureau incriminé. Paulin Munanga nous raconte.
À l'issue du vote de la motion de défiance initiée par le député Jean Tayari Kiswa Bantou, sur 20 députés provinciaux présents, 17 ont voté pour la déchéance de Basile Muleba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, et 18 députés ont voté pour la déchéance de Séraphin Mukaya, questeur de l'Assemblée provinciale. Ils sont accusés de détournement des émoluments des mois de mars 2024 et mai 2025 destinés aux députés provinciaux, aux assistants parlementaires et au personnel des soutien. Ce détournement présumé est révélé dans un mémorandum adressé au vice-premier ministre de l'Intérieur. Les députés dénoncent des injures, menaces et intimidations proférées à leur encontre par les présidents déchus. Signalons que les deux partis se sont rendus dernièrement à Kinshasa pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur. À leur retour à Kalemi ce jeudi, les députés qui soutiennent la motion de défiance ont indiqué que le VPM de l'Intérieur a autorisé l'organisation de la plénière pour procéder au vote de cette motion. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec les deux membres du bureau déchu. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au Kasaï central, des maisons brûlées et une école vandalisée dans le village Kasombo, secteur de Kabelekese, groupement de Kavweta, territoire de Luisa. C'est la conséquence d'un conflit coutumier qui oppose le chef de la localité Bikongolo, Michel Chawanga, et à Albert Kavweta. Le premier s'est autoproclamé chef du groupement et d'après plusieurs sources, il est allé attaquer le village Kasombo sous prétexte que son chef refuse de le soutenir dans sa lutte de conquérir ce pouvoir coutumier. Le récit de André Katende.
Depuis vendredi soir jusqu'à ce samedi matin, le chef de localité Bikongolo Chawanga Kachanga Michel a attaqué la localité Kasombo. Avec ses acolytes, ils ont mis feu aux maisons des habitants, saccagé leurs champs et vandalisé une école. Joint au téléphone, Albert Kavuita Mwanangana, chef du groupement Kavuita légalement établi, fait savoir que les habitants du village Kasombo ont fui. Certains se sont réfugiés en brousse et d'autres dans des villages voisins.
Monsieur Chawanga Kachanga, Michel, qui se proclame chef, est allé avec son groupe de milices nommé Armée Rouge, incendier et détruit méchamment toutes les maisons et écoles du village Kasombo.
Chef Albert Kavuita Mwanangana fait savoir que cette attaque du village Kasombo a débuté depuis mercredi et s'est poursuit jusqu'à présent. Il indique que ces conflits entre les chefs Chawanga Kachanga et lui tournent autour de la gestion du groupement et c'est un conflit qui a déjà causé plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans son groupement. D'où il invite les autorités tant provinciales que nationales à leur venir en aide et sauver la vie des habitants de son groupement qui sont en danger. Nous n'avons pas encore reçu la version du chef incriminé et la réaction des autorités provinciales. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Kapi.
Direction l'Ituri, une nouvelle attaque des rebelles ADF a fait un mort, plusieurs personnes portées disparues et a provoqué l'incendie d'un camion à Kamagolo. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à hier vendredi dans un village situé à 45 km de Komanda sur l'axe Yedi dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, de nombreux habitants ont quitté la zone craignant des nouvelles attaques. Ces populations vivaient principalement de l'agriculture, de l'exploitation artisanale de l'or et du bois. Les forces conjointes FARDC et armée ougandaise sont à la poursuite des assaillants afin de stabiliser la région, indiquent des sources de sécurité. C'est un reportage de Isaac Remoyope rendu ici par Jean Gandou.
Ces rebelles ADF qui ont mené cette attaque seraient ceux qui fuient les opérations militaires en cours vers l'Oloa sur la route nationale numéro 4 entre Komanda et Mambasa. Une partie d'entre eux se serait repliée dans la forêt de Kamagolo sur l'axe Komanda-Yedzi dans le territoire de Mambasa où ils ont tué un policier incendié un camion transportant de braise. Plusieurs personnes sont également portées disparues selon les sources locales. C'est la première fois que ces rebelles s'installent dans cette partie du territoire d'Irumu, une zone autrefois paisible où vivaient des milliers d'habitants. Ces derniers y pratiquaient l'exploitation artisanale de l'or, la culture de champs et la coupe du bois, notamment dans les localités de Mateumba et Lubumbashi dans le groupement Basunu. La majorité de cette population a quitté la zone pour se réfugier à Mukasila 1 et 2 et les forces conjointes FRDC armées ougandaises sont actuellement à la poursuite des ADF pour le neutraliser. La société civile appelle les autorités militaires à renforcer les opérations afin de stopper l'avancée de ces rebelles qui continuent d'étendre leurs attaques et de provoquer le déplacement des civils dans la province de l'Ituri.
Restons en Ituri. Environ 310 ex-combattants et membres des communautés locales de Miala, une dizaine de kilomètres de Bunia, ont bénéficié hier de matériel aratoire pour les activités agricoles et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, un appui destiné à favoriser leur réinsertion socio-économique. Ce projet, qui concerne plus de 900 personnes, vise à réduire les violences armées dans la province de l'Ituri. Il est financé par la MONUSCO à travers sa section désarmement, démobilisation et réintégration en partenariat avec d'autres acteurs. Des précisions avec Isaac Remoyope.
Ces ex-combattants qui ont choisi la filière agricole ont réussi entre autres des houes, bêches et pioches pour cultiver dans des champs communautaires de leur localité. Les récoltes à venir devraient leur permettre de subvenir à leurs besoins plutôt que de vivre des armes comme par le passé. En attendant la saison des récoltes, ils seront également employés comme main d'œuvre dans les travaux de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Ngabouliri Pajak, l'un des bénéficiaires, exprime sa satisfaction.
Nous avions déposé nos armes. On veut faire la paix et la cohésion sociale. Et nous voudrions maintenant démarrer avec nos activités de la réinsertion des ex-combattants dans les milieux.
Selon l'ONG PIS Mwangaza qui exécute ces projets, plus de 900 ex-combattants et membres des communautés locales sont concernés dans les localités de Telega, Tsere et Chomia. Ils participent notamment à la production d'aliments pour les bétails et les poissons. Cette organisation encourage par ailleurs les milices encore armées à adhérer au processus de paix en cours pour faciliter leur insertion dans la vie civile. Gloire Mongo.
Nous encourageons d'autres jeunes de déposer les armes. L'État a déjà pris les dispositions à travers le PDDRCS de réinsérer les jeunes qui vont décider d'abandonner l'arme et de revenir vers la paix et la cohabitation pacifique.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Rendons-nous au Nord Kivu, où 10 inspecteurs de police judiciaire ainsi que des magistrats civils et militaires de Beni ont clôturé hier vendredi une formation de 2 semaines sur le thème « La crypto-monnaie et échange chiffré, nouveau défi pour la lutte contre le financement du terrorisme » organisé par la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Cette session visait à renforcer les capacités des acteurs judiciaires face aux techniques de financement utilisées par les groupes armés. La formation intervient dans une région où les EDF, auteurs des nombreuses exactions depuis plusieurs années, sont désormais affiliés au mouvement terroriste État islamique. Le major John Kitalebe, inspecteur judiciaire à l'auditorat militaire de garnison de Beni, est l'un des participants, explique ici l'importance de cette formation. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
On a parlé sur les fonctions de principe de cryptologie et les cryptographies. On a parlé sur la sécurité du réseau et les chiffrements. On a parlé aussi sur les principes de transfert de messages sécurisés. Et on a parlé aussi sur la crypto-monnaie, une monnaie virtuelle que souvent utilisent les terroristes pour éviter à être tracés et pour éviter aussi à être taxés par des banques congolaises. Cette formation nous a permis de connaître toutes ces méthodes et nous enseigner comment on peut s'en sortir pour dénicher tous ces gens dans notre travail sur terrain. Vous savez que nous sommes dans une zone à poids du terrorisme. Et ces terroristes utilisent toujours le moyen, les portefeuilles électroniques pour faire traverser, pour faire circuler les argent. Et cette formation nous a permis d'améliorer notre travail sur terrain. Et surtout la technique qu'on nous a appris, comment dénicher les monnaies cryptées, comment définir les réseaux de ceux-là qui financent les terroristes, en les dénichant, comment aussi on peut stopper et arrêter les trafics.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, plusieurs centres de santé qui offraient autrefois des soins gratuits à la population ont commencé à facturer leurs services, une décision qui fait suite d'une part au désengagement de plusieurs partenaires humanitaires et ont réduit leurs activités en raison du contexte sécuritaire dans la région et d'autre part à la crise de liquidité qui frappe durement le secteur humanitaire. Conséquence, de nombreux malades renoncent à se rendre dans les structures médicales, certains se soignent à tâtons par des plantes. Une situation qui peut parfois entraîner des pertes en vie humaine, déplore l'infirmier titulaire du centre de santé de Bouimba. Nous sommes à l'ouest de Goma. Comment ce centre parvient-il à fonctionner depuis la suspension de l'aide? Élément de réponse avec Rosalie Zawadi.
La fin brutale de la gratuité des soins est un problème non seulement pour la population, mais aussi pour les structures de santé, explique Emery Mouindo, infirmier titulaire du centre de santé Bouimba à Goma.
On avait les soins gratuits pour tous les malades de l'aire de santé. Maintenant, vu que la population était déjà habituée à cette gratuité des soins, comme il n'y a plus de partenaires qui soutiennent les soins de santé primaires, maintenant on a été obligé de remettre la facturation en place et que cette population-là ne parvient pas à s'en sortir par rapport à la facturation vu qu'il était déjà habitué à la gratuité. À part ça, il y a aussi le degré de vulnérabilité. Imaginez, on fait payer quelque soit 10 dollars qui était en observation, mais il te dit qu'il n'a même pas 100 francs, ce qui handicape maintenant les activités de la structure.
Il ajoute que depuis que le centre de santé Bouimba a commencé à facturer ses services, seulement 20% des malades arrivent à s'acquitter des frais. C'est pourquoi il demande aux autorités de voir dans quelle mesure elles peuvent faciliter l'accès aux soins de santé primaire à la population dans toutes les zones où les soins gratuits existaient auparavant. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, près de 9 millions d'électeurs se rendent aux urnes ce samedi pour choisir leur futur président. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. Le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un 4e mandat de 5 ans. L'octogénaire affronte notamment l'ancien ministre et homme d'affaires Jean-Louis Billon et l'ex-première dame Simone Gbagbo, signalant que ni l'ex-président Laurent Gbagbo, ni le banquier international Tidjane Thiam ne pourront concourir ou même voter ce samedi. Dit, leurs candidatures ont été rétoquées car ils sont absents de la liste électorale, l'un pour une condamnation pénale, l'autre pour des problèmes de nationalité. L'ex-président André Rajoelina, déchu de sa nationalité par les nouvelles autorités de la Grande Île, en cause sa double nationalité. Depuis 2014, en effet, André Rajoelina avait acquis la nationalité française par naturalisation, ce qui est contraire à l'article 4 du Code de la nationalité en vigueur à Madagascar. La disposition stipule qu'un malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Nzanga Mobutu, fils de feu, le maréchal Mobutu Sese Seko. Il s'exprime sur l'exposition des photos de l'ancien président de la République, exposition qu'il organise au Musée national ici à Kinshasa, intitulée « Mobutu, une vie, un destin ». Cette exposition a commencé le jeudi 16 octobre et va se clôturer le jeudi 30 octobre 2025. Mais pourquoi cette exposition maintenant et pour quel objectif? Nzanga Mobutu répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Alain Rongmouchinge.
Monsieur Nzanga Mobutu, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette exposition maintenant?
Eh bien, ma foi, c'est une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises depuis jeudi dernier, donc le 16 octobre. J'ai eu un peu à donner différentes réponses, mais je vous dirais que ce qui était important pour moi, c'était d'abord comment parler à la jeunesse, comment expliquer une personne qui est restée pendant 32 années à la tête du pays, une personne dont la durée au pouvoir se confond quasiment avec l'histoire du pays. Et la meilleure manière, à mon sens, après réflexion, je me suis dit qu'une exposition photo était la meilleure expression pour parler à la jeunesse. Parce qu'en fait, en réalité, tout a été dit, tout a été écrit, mais en fait, je ne pense pas que la réalité ait été dite. Parce que finalement, le président Mobutu, il avait quand même beaucoup plus de facettes que ce qu'on peut en dire en réalité. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment cette expression-là qui m'intéressait. Et puis après, finalement, il fallait faire le choix. Et ça, j'assume totalement le choix des photos qui a été fait. D'après ce qui me revient, en tout cas, je pense que ce choix était quand même intéressant.
L'exposition a commencé le 16 jusqu'au 30. Pourquoi cette date?
La date du 14, parce que c'est une date qui est quand même symbolique. C'était son anniversaire de naissance. Il aurait eu 95 ans la semaine passée, le 14 octobre. Et donc, pour moi, symboliquement, c'était important de faire ce vernissage à ce moment-là. Et puis, commencer donc le 16 octobre pour l'exposition. Donc, 15 jours pour essayer de passer ce message, de faire connaître aussi le président Mobutu. Puisqu'en fait, souvent, on a beaucoup parlé de lui, mais on ne le connaissait pas.
Et quel sens vous donnez à cette exposition?
Bon, ma foi, je dirais que, bon, certains disent que je veux passer un message historique, peut-être, parce que c'est vrai que je suis féru d'histoire, et pour moi, je me disais, comment est-ce que je peux vraiment parler aux jeunes? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le seul moyen, à mon sens, pour expliquer qui il était, et humblement, en tout cas, si on a pu réussir cet exercice-là, je m'en félicite en tout cas.
Quel message vous voulez lancer aux Congolais à travers cette exposition?
Je dirais que il est temps que l'histoire de notre pays soit enseignée à l'école, à tout le monde, même aux plus vieux, parce que je pense qu'on fait trop de sentiments dans cet exercice d'histoire qui n'a pas besoin de sentiments, qui doit juste s'inspirer des faits, tenir compte des faits. Seuls les faits, en fait, doivent pouvoir être enseignés, être appris dans les familles. Et je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'étaient même pas nés au moment où le maréchal de Mobutu nous quittait. Mais je comprends que ils ont des aînés, ils ont même des parents qui leur en parlent. J'imagine cet intérêt venait de là probablement.
Il y a même des écoles qui ont défilé ici.
Absolument, absolument. Donc ça commence à l'école primaire. Je l'espère, en tout cas, ça donnera lieu aussi à d'autres expositions. Parler du premier président de la République, le président Kazavubu, parler de Patrice Lumumba. Autrement que toujours de cette manière, toujours un peu crispé. Et je pense qu'il faut en parler vraiment aisément. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le président Mobutu a été aussi journaliste dans sa vie professionnelle. Il y a 4 articles qu'il a écrits, donc entre 1957 et 1959. Et il y a justement un article qu'il a écrit. Il a couvert le meeting de Patrice Emery Lumumba, donc le 28 décembre 1958. Et voilà, c'était un moment très important de l'histoire de notre pays. Et j'étais vraiment très content de pouvoir exhiber cet article ici dans le cadre de cette exposition.
Alors, revenons au choix des photos. 32 ans au pouvoir, 67 ans de vie, ce n'est pas évident. Hein. Vous devriez avoir eu beaucoup de mal dans le choix des photos.
Absolument, absolument. Mais il faut dire aussi que cela fait de nombreuses années que je me prépare un peu à cet événement sans réellement savoir ce que je voulais en faire. Parce que c'est plus de 20 ans que je numérise les photos ou même les négatifs. Donc, quelque part, je me suis toujours préparé à cela. Donc, lorsque les choses se sont précisées, il m'a fallu juste, finalement, établir un nombre. J'avais pensé à une centaine de photos, parce que je pense qu'avec ce nombre-là, ça peut quand même suffisamment, résumer, même si c'est pas facile, mais en tout cas résumer cette vie, puisqu'il a eu une vie avant la présidence, une vie avant le colonel, le général, il a eu une vie, c'est-à-dire comme journaliste. Donc c'était important de le dire, même si c'est sous forme de clin d'œil, mais c'était important de le faire savoir. Donc, mais c'est vrai que ça a été un exercice un peu difficile, parce que c'est aussi une responsabilité, et j'assume totalement le choix de ces photos, et je pense que ça a été quand même un choix assez suffisamment éclectique. Voilà.
Et c'est combien de photos à peu près qui sont exposées ici au musée?
Il y a une centaine de photos.
Merci beaucoup, M. Nzanga Mobutu.
Sachez que vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview demain dimanche à 9h, heure de Kinshasa, dans l'émission Grand Témoin, mais aussi sur notre site www.radiocapi.net. Par ici s'achève complètement ce journal coordonné par Jean Gandou et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.